Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance, en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, pour notre émission Petit sujet psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous, Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delaize. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous au petit déjeuner des Français. À quoi ressemble-t-il ? Les Français lui accordent-ils la place qu'il mérite ? Le Crédoc donne quelques réponses. Des chercheurs du Crédoc ont recruté plus de 1700 volontaires et leur ont demandé de renseigner leurs habitudes alimentaires matinales durant une semaine. Premier constat, 90% des personnes interrogées prennent régulièrement un petit déjeuner. Pour 70% des enfants, 40% des adolescents et 38% des adultes, le repas est pris en compagnie d'autres membres de la famille. Mais ces bons résultats en apparence ne doivent pas occulter certains comportements, comme le fait qu'un enfant sur quatre prend son petit déjeuner seul, 17% des ados sautent presque systématiquement ce repas, ou encore que 30% des répondants avouent manger devant un écran. Les chercheurs ont pu observer que statistiquement, les personnes souffrant de surpoids et d'obésité étaient aussi celles qui mangeaient le plus souvent seules ou devant la télévision ou l'ordinateur. Pour le contenu de l'assiette, les enfants consomment fréquemment du lait au petit déjeuner, ainsi que divers produits à base de céréales. En revanche, leur consommation de fruits n'est pas fréquente. Chez les adultes, la consommation de produits laitiers et de céréales au petit déjeuner est également fréquente. Notons aussi que le pain et les céréales complètes restent les choix rares sur la table du petit déjeuner. Rappelons que selon le Programme National Nutrition Santé, le premier repas de la journée devrait reposer sur trois piliers, un produit céréalier, un produit laitier et un fruit. Dans ce travail, et sans trop de surprises, ceux qui respectaient cette prérogative étaient ceux qui présentaient une qualité nutritionnelle plus élevée, avec de meilleurs apports en vitamines et minéraux. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons détox. Vous sentez que les repas de fête ont laissé des traces sur votre organisme ? Voici donc quelques conseils pour éliminer les toxiques de votre organisme. Une alimentation déséquilibrée ou abondante peut fragiliser notre foie, lequel, lorsqu'il sature, ne manque pas de nous envoyer quelques signaux d'alerte, langue pâteuse, nausées ou encore des coups de fatigue d'après-repas. Le foie joue un rôle important dans le processus d'élimination des toxiques. Il abrite de nombreuses cellules, les hépatocytes, qui contiennent un grand nombre d'enzymes impliquées dans l'élimination de ces substances. En cette période d'après-fête, votre objectif sera donc de miser sur les aliments détox qui vont stimuler le fonctionnement de ces enzymes hépatiques. Dans cette optique, la famille des crucifères constitue un choix optimal. Au menu, choux, brocolis, radis noirs, navets, cresson. Privilégiez également l'artichaut qui est doté de vertus stimulantes au niveau du foie et favorise aussi l'évacuation de la bile. Le pissenlit exerce également une action positive sur la synthèse de la bile et sur son évacuation. L'endive pour son action diurétique, sans compter qu'elle est aussi riche en sélénium, un puissant antioxydant. Le citron, également pour son action sur le foie et ses vertus antioxydantes, le concombre, un diurétique efficace, les jus de framboise, fraises et autres grenades, ils sont riches en acide élagique, un puissant antioxydant hépatique. Enfin, les laits fermentés pour leur richesse en probiotiques. Un dernier point, les lendemains de fête, veillez à bien vous hydrater en eau, de préférence riche en bicarbonate.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous, Petit Sujet Psychologique. J'y reçois Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
Petit Sujet Psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute.
Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit Sujet Psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Lors de notre émission précédente, vous nous avez parlé des pervers narcissiques. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des victimes des pervers narcissiques.
Parce que pour qu'un pervers puisse jouer, il faut être au moins deux. On ne peut pas jouer tout seul. Donc évidemment qu'ils vont savoir repérer en fait chez leurs victimes des personnes qui ont un petit peu des failles, des vulnérabilités. Souvent c'est des problèmes d'estime de soi. Ça peut être des problématiques d'attachement aussi. Hein. Donc ça ils vont repérer avec qui ils peuvent jouer entre guillemets.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est un pervers narcissique, Éléonore Tarlet ?
Alors, structure de personnalité narcissique, c'est-à-dire une personne assez auto-centrée, qui a toutes les qualités de la terre, qui sait tout mieux que tout le monde et qui va un peu dénigrer, culpabiliser les autres. Le problème, c'est les autres. S'il est malheureux, c'est à cause des autres. Les gens font jamais assez bien. Enfin, voilà, un petit peu pour résumer.
Une victime d'un pervers narcissique, elle peut s'identifier elle-même ou c'est compliqué ?
Alors, moi, ce que je constate généralement, c'est que les personnes viennent me voir au cabinet et savent pas pourquoi elles vont pas bien. Donc, elles disent, voilà, je me sens déprimée, je suis pas bien, j'ai pas confiance en moi, je doute de tout. Et en fait, vont pas du tout savoir d'où ça vient. Si c'est dans le couple, on peut se dire, ça fait quand même plusieurs années que le couple fonctionne. Si la personne a été victime dans son couple, c'est sans doute que peut-être elle a été formatée comme victime avant. Alors attention, formatée, c'est peut-être qu'elle avait un des parents aussi qui était un petit peu manipulateur, ou en tout cas qu'on lui a pas donné suffisamment sa place. Elle a pas été suffisamment valorisée. Donc elle va avoir tendance, sans s'en rendre compte, à retomber dans un couple où finalement elle est toujours pas valorisée, on lui donne pas sa place, mais ça lui pose pas problème puisqu'elle aura toujours connu ça.
Et un enfant de parents pervers narcissiques aura tendance à devenir victime plutôt que pervers narcissique ?
Alors, il peut y avoir de la reproduction et il peut y avoir effectivement un formatage de victime.
Et alors donc, les indices qui doivent alerter une victime de pervers narcissique, c'est une sorte de dépression ou...
Oui, une dépression. En fait, ça se repère beaucoup, la manipulation, dans les séquences de communication. Alors, à l'oral, c'est compliqué parce que comme c'est les gens qui vont nous culpabiliser, on va vite être dans l'émotion et on va pas discerner que c'est la situation le problème ou que c'est la communication. Donc on va plus être occupé à se justifier, à s'expliquer, plutôt que se dire « mais cette phrase-là, elle n'est pas cohérente ou elle est méchante ». Par contre, moi je trouve qu'à l'écrit, alors les textos ou les mails nous permet vraiment d'observer des séquences de communication. Et là on voit s'il y a de la culpabilisation, s'il y a du dénigrement, si la personne ne répond pas aux questions, si elle botte en touche, si elle retourne la situation contre nous.
Alors, si ça c'est un truc spécifique de retourner la situation ?
Ah oui, ils retombent toujours sur leurs pattes. Hein. Hier soir, il y avait une personne... Oui, elle me disait, voilà, ma mère essaye de m'appeler. Je pouvais pas, je faisais mes courses, donc dès que je peux, je la rappelle. Elle me dit, tu m'appelles, mais je suis pas dispo, là, je suis en train de faire mes courses, je te rappelle. Et paf, elle lui raccroche au nez. Et donc, la personne me disait, sur le coup, j'ai culpabilisé, je me suis dit, j'ai appelé au mauvais moment, je l'ai dérangé. Puis elle me dit, mais après coup, non, c'est elle qui a cherché à me joindre, donc je la rappelle. Et puis en fait, tout d'un coup, c'est moi qui la dérange.
Retournement de situation. Donc.
Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, ça va complètement nous brouiller le cerveau. On va vraiment croire que c'est nous le problème et qu'on fait jamais ce qu'il faut. On est tout le temps à côté de la plaque et on répond jamais ce qu'il faut. Et voilà.
Et alors donc, le pervers narcissique, lui, sait choisir le profil qui va devenir sa victime.
Oui. Nous, les aidants, on est des cibles privilégiées puisque souvent on devient psychologue, infirmière, éduxpé, assistante maternelle parce qu'on a envie de s'occuper des autres. Donc toutes les personnes, je dirais, qui ont une fibre altruiste et qui passent leur vie à s'occuper des autres, c'est des cibles privilégiées. Ils vont savoir nous ferrer et faire un peu leur victime pour se positionner dans ce que nous, on aime faire. Et du coup, pof, nous, on va faire notre Saint-Bernard et on va s'installer là-dedans sans s'en rendre compte.
Quand on est victime d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique, hein, parce qu'il n'y a, pas de sexe. On peut s'en sortir ou comment est-ce qu'on s'en sort?
Déjà, il faut repérer que c'est ça le problème, hein, parce qu'en général, il y a toute une première partie où on veut pas remettre en cause le conjoint ou le parent. Moi, j'entends des choses, c'est ma mère quand même, ou mais non, mais mon mari, parfois, il est gentil, il est pas tout le temps comme ça, mais c'est son caractère. Donc en fait, les personnes ne sont pas lucides du tout sur la situation, même si les amis, leur entourage leur disent, hein, ils n'entendent pas. Donc déjà en prendre conscience et puis ensuite c'est la fuite. Malheureusement la seule solution avec une structure de personnalité comme ça, on peut pas discuter avec un pervers narcissique, on peut pas le raisonner, on n'aura jamais raison, on n'aura jamais gain de cause. Donc il faut partir, il faut lâcher.
Ah, c'est radical, ouais. Il faut partir.
C'est l'évitement. Alors ce qui est compliqué c'est quand il y a des enfants au milieu, qu'il y a un divorce, ben, en général le manipulateur se saisit des enfants pour atteindre à nouveau l'autre parent.
Éléonore Tarlet, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé au micro de Petits Sujets Psychologiques. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique.
Hein. Avec grand plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Thank you.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était Petit Sujet Psychologique avec Éléonore Tarlé que vous retrouverez mardi prochain sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Voici de nouveau réunis pour cette nouvelle émission dans cette série consacrée à l'espérance. Et avec vous, Philippe Delez, bonjour.
Bonjour Gaël et bonjour à tous nos auditeurs.
Je rappelle que vous êtes notre intervenant sur cette série pour regarder les événements actuels et à venir au regard de la Bible. Alors, on a commencé par expliquer ce qu'était la Bible, expliquer également sa véracité, son authenticité. On a parlé de son message et on avait expliqué que Christ, Jésus donc, était au centre de ce message. Nous avons donc présenté, lors de notre dernière émission, ce personnage historiquement mais également bibliquement. Et vous nous avez dit que ce Christ était donc un personnage attendu à son époque, mais pourtant à cette époque-là, comme le Nouveau Testament n'existait pas encore, les gens de son époque l'attendaient sur la base de récits de l'Ancien Testament.
Oui, sur le récit de l'Ancien Testament, et nous avons la parole du prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, qui nous dit ceci dans son chapitre 7 au verset 14. Je vous le lis. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu, dans son évangile, au chapitre 1, verset 23, nous dit ceci également. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est venu comme sauveur. Il est venu comme rédempteur. Il est venu parce qu'il désire donner une seconde chance à notre humanité. L'homme est devenu pécheur car il a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance a pour conséquence la mort, celle que nous connaissons, celle qui nous entoure quotidiennement, cette mort que Jésus qualifie de sommeil. Dans son évangile, Jean, au chapitre 11, au verset 11, nous dit ceci. Après ces paroles, Jésus leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri ». Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort ». À ce moment, Lazare expérimente la première mort, celle qui nous met dans l'attente de la résurrection. Et l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». La Bible nous parle ici d'une seconde mort, une mort qui nous efface de l'éternité. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est question de cette deuxième mort. Au chapitre 20, verset 6, il est dit ceci « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » En fait, c'est de cette deuxième mort que Jésus est venu nous libérer. Dieu n'a pas pris l'homme en traître. Il l'avait averti du danger qu'il courait s'il désobéissait. Et je vous cite la Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » Donc, nous pouvons comprendre que la mort n'existait pas à cette époque. Et par déduction, l'éternité est conditionnelle. Donc Jésus est venu pour nous sauver de la mort éternelle.
Alors pourtant nos premiers parents ne sont pas morts dans l'instant. Quelles ont été du coup les conséquences de leur désobéissance?
Eh bien, en fait par la désobéissance, l'homme a ouvert une porte sur l'inconnu. Et nous comprenons déjà le premier symptôme de ce geste. Dans la Genèse, au chapitre 3, verset 9, je vous lis. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin » Et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. La peur n'existait pas jusqu'alors. Cette désobéissance provoque déjà de l'insécurité, de la crainte. C'est la première émotion. Et un peu plus loin, Dieu dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et dans un premier temps, nous constatons un Dieu qui n'est pas accusateur. Nous constatons également que la mort n'a pas frappé immédiatement nos premiers parents. Dans un second temps, nous constatons que nos parents, on pourrait dire, bottent en touche. « Ce n'est pas ma faute, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Et la femme, « Ce n'est pas ma faute, c'est le serpent. » Et c'est à ce moment, par amour, Dieu choisit d'endosser la responsabilité de l'homme. C'est à ce moment qu'il accepte la mission de la rédemption, mais il y aura tout de même des conséquences à vivre.
Alors, on comprend bien cette explication, et dans tout cela, qui est le serpent ?
Ah oui, le serpent est présenté dans la Bible comme étant le diable. L'Apocalypse, le dernier livre, nous donne cette précision. Au chapitre 12, verset 9, je vous lis. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. » Ce serpent ancien qui, dans le premier livre, donc la Genèse, séduit Ève, en fait, est Satan. Satan est un mot hébreu qui signifie l'adversaire, l'accusateur.
Donc l'homme découvre, du fait de cette désobéissance, il découvre de nouvelles émotions, la peur par exemple, mais il découvre également la mort, puisqu'il mourra lui aussi. Mais quelle est l'issue ? Parce que là on ne voit pas encore le salut.
Oui, la Bible nous donne une indication au chapitre 3, verset 21 de livre de la Genèse. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Pour faire des habits de peau, il a bien fallu tuer un animal. Donc, un animal innocent a été sacrifié pour revêtir nos parents désobéissants. Et je vous lis ce que nous dit la Bible dans la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 20. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Le plan de la rédemption était prêt avant que la désobéissance apparaît. Dieu est omniscient. La Bible nous dit qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Dieu est partout à toutes les époques. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. D'où cet agneau qui symbolise la venue du Christ sur cette terre. Cet agneau, cité par le prophète Isaïe au merveilleux chapitre 53, je vous le rappelle, écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Je vous le cite au verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Jean, dans son évangile, nous rapporte les paroles de Jean-Baptiste qui voit arriver Jésus vers lui. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et un peu plus loin, au verset 36, « Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Dieu revêt nos parents et symboliquement, il les revêt de Christ. Encore une prophétie de sa venue. Et nous trouvons dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27, ceci. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »
Et donc de cette manière, Dieu a couvert la désobéissance de nos premiers parents. En tout cas, c'est ce qu'on comprend par ce récit. Mais si j'ai bien compris, il y a également une bonne nouvelle encore aujourd'hui.
Oh oui, la Bible est pleine de bonnes nouvelles. Malgré notre désobéissance, notre rébellion, Dieu est prêt à nous pardonner parce que Dieu est amour.
Effectivement, c'est un sujet large que celui que vous venez de lancer. Il y a beaucoup à dire autour de cette thématique. Déjà sur la thématique de la mort dont nous avons parlé aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre.
Avec plaisir, oui.
À bientôt.
À bientôt, merci.
sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste et vous écoutiez La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et bien sûr tout cela en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.